à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster et Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Marc Oloridon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. On retrouvera tout à l'heure Marc Semo. Cette semaine, le président égyptien est venu en France pour une visite officielle. Sa venue a été très critiquée par les ONG qui dénoncent les nombreuses entraves aux droits de l'homme, la répression du pouvoir à l'égard de ses opposants politiques. Des sujets qui ont d'ailleurs été abordés, même si le président Macron refuse et même juge inefficace de conditionner le dialogue et la coopération à la question des droits de l'homme. Car en effet, l'alliance est solide, les intérêts profonds entre la France et l'Égypte dans un environnement régional particulièrement instable. Mais d'ailleurs, quels sont ces intérêts partagés? Sur quel dossier Al-Sisi et Emmanuel Macron vont-ils chercher à approfondir leur coopération en matière sécuritaire, militaire, économique? Au fond, pourquoi la France accueille-t-elle le président égyptien à bras ouverts et que vient faire Al-Sisi à Paris? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure. Nous recevrons Jean Marcoux, qui sera avec nous depuis Grenoble, également Anne-Claire de Gueffier-Bonneville. Mais avant de les recevoir, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des Prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin revient du Ghana, c'est Marie de Vergès. Bonjour Marie de Vergès.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef adjointe du Monde Afrique. On vous reçoit, on vous accueille pour une série d'articles que vous avez publiés sur Le Monde. Je rappelle, j'explique pour les auditeurs, petit point de cadrage, que lundi dernier se tenaient les élections générales au Ghana, présidentielles et législatives. Ghana, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, qui fait un peu figure d'exception, de havre de stabilité et de démocratie dans la région, avec un vrai multipartisme, des élections libres depuis 92, instaurées par Jerry Rawlings, qui est une figure tutélaire dans le pays, et même au-delà, on aura l'occasion d'en parler ensemble. Sauf que ce qui se passe, c'est que mercredi, après l'annonce des résultats et la victoire revendiquée par le président sortant, Nana Akufo-Addo, eh bien l'opposition a rejeté le résultat et dénoncé une attaque contre la démocratie. Alors on va essayer avec vous, Marie de Vergès, de comprendre ce qu'il se passe et si, au fond, l'exemplarité démocratique que j'évoquais dans ce pays est menacée. Alors, la commission électorale, Marie de Vergès, a annoncé les résultats. Nana Akufo-Addo, le président sortant, a officiellement remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat de l'opposition, qui est d'ailleurs un ancien chef de l'État, qui est John Mahama. C'est un résultat qui est très serré. L'opposition a immédiatement rejeté le résultat. Or, il y a une semaine, les deux candidats avaient signé un pacte de paix dans lequel ils s'engageaient à respecter le verdict des urnes. Il a déjà volé en éclats.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on peut trouver que c'est assez étonnant. Alors, je me permets juste de vous corriger sur le nom du chef de l'État, qui est Nana Akufo-Addo, et non pas Addo.
Ah, pardon, excusez-moi.
Voilà. Et donc, en fait, ce pacte de paix, c'est un peu une tradition au Ghana. C'est la troisième fois que les deux principaux candidats se prêtent à cet exercice avant le scrutin. Et effectivement, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le Ghana fait figure effectivement d'exemple démocratique au sein de la région. Néanmoins, les élections ne sont jamais non plus un exercice tout à fait allant tout à fait de soi. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de garde-fous qui sont installés, toute une cohorte d'observateurs qui sont là et qui montrent que finalement la démocratie est là depuis 30 ans, mais c'est encore une jeune démocratie et qui est encore en train de faire ses preuves finalement à chaque élection. Donc on observe là cette suite à l'élection qui montre que ce n'est pas si aisé avec le parti d'opposition qui conteste sa défaite. Le candidat John Mahama a pris la parole hier soir pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ses résultats. Maintenant, ce qu'il faut voir, ce qui sera très important de voir dans les jours et les semaines qui viennent, c'est comment ça va se traduire concrètement. C'est-à-dire, est-ce que ça peut dégénérer en violence post-électorale, auquel cas ce serait un vrai désaveu comparé aux précédents scrutins qui se sont tenus globalement paisiblement dans ce pays au cours des trois dernières décennies, ou est-ce que ça va être une contestation qui va se dérouler par la voie légale, auquel cas ce n'est pas une nouveauté. En 2012, Nana Akufo-Addo, qui était déjà opposée à John Mahama au cours d'un premier scrutin, avait contesté sa défaite. À l'époque, il avait perdu face à John Mahama. Le processus avait duré plusieurs mois, 8 mois si je ne me trompe pas, et in fine la Cour suprême avait décrété que le scrutin avait donné les bons résultats. Et Nana Akufo-Addo avait reconnu sa défaite.
Et au-delà de la question possible des poursuites judiciaires sur la possibilité de violence post-électorale, parce qu'effectivement, on est dans un pays où, là, par exemple, très récemment, dans une région, pardon, on a eu deux pays qui ont connu des violences post-électorales très importantes, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Vous pensez qu'il y a un vrai risque de violence post-électorale ou les quelques jours que vous avez passés sur place vous laissent penser qu'il n'y a pas de chance?
C'est toujours très difficile de
Bien
faire ce
sûr.
type de pronostic, mais le Ghana, alors il y a quand même eu 5 morts hein, autour des élections, le jour de l'élection et le jour suivant. C'était pour autant des incidents isolés qui n'ont pas dégénéré et qui n'ont pas eu lieu sur une base interethnique. Donc ça, c'est important aussi. Depuis le début des années 90, il n'y a pas d'affrontement interethnique au Ghana. Les communautés vivent en harmonie. Et ce que moi j'ai pu observer au cours des 10 jours que j'ai passé là-bas, c'est une campagne se déroulant globalement vraiment dans le calme et vraiment des paroles d'électeurs très pressés d'aller voter, prenant leur devoir citoyen hyper au sérieux et ayant un discours vraiment très attaché à la paix et à la stabilité. On sent que c'est vraiment une donnée qui compte énormément pour les Ghanéens. Tout ça laisse à penser qu'il y a quand même des remparts. À ces formes de violence post-électorale. Maintenant, effectivement, l'avenir n'est pas écrit. Et puis, il y a une donnée qui est un peu particulière pour cette élection, c'est l'absence de Jerry Rawlings, dont vous mentionnez le nom tout à l'heure, qui est vraiment la figure tutélaire de la démocratie ghanéenne et qui est mort il y a quelques semaines. Et au cours de scrutins précédents, notamment en 2016, scrutin au cours duquel s'était déjà affronté pour la deuxième fois John Mahama et Nana Akufo-Addo, Jerry Rawlings avait un peu joué un rôle d'arbitre, poussant John Mahama à accepter sa défaite. Effectivement, à l'époque, Nana Akufo-Addo avait emporté l'élection avec 1 million de voix d'avance, ce qui était vraiment considérable. Donc, il n'y avait vraiment aucun doute sur cette victoire. Mais il avait tout de même poussé son parti d'origine, le NDC, qu'il a fondé, donc le Congrès démocratique national, à accepter très rapidement sa défaite pour pouvoir passer à une nouvelle phase et acter l'alternance politique.
Et là, vous pensez que sa disparition le 12 novembre dernier pourrait, eh bien, déstabiliser un peu le paysage politique? Il y a un
En tout
risque?
cas, elle constitue un point d'interrogation. C'est vrai que les Ghanéens restent extrêmement attachés à cette figure. C'est une figure extrêmement respectée, importante. Elle est devenue de plus en plus au cours des années suivant son départ du pouvoir. Donc, effectivement, on peut penser d'un côté que par respect pour cette figure-là, les deux candidats principaux vont s'attacher à respecter un processus démocratique, c'est-à-dire s'en remettre à la justice, à accepter la décision de la justice. On peut aussi se demander si cette absence n'ôte pas un garde-fou à la démocratie ghanéenne.
Vous parlez de garde-fous, vous parlez tout à l'heure de remparts. Il y a une chose qui est très intéressante que j'ai lue dans l'un de vos papiers, c'est que on fait tout pour éviter les dérapages et notamment on a mis en place des cellules de fact-checking, de vérification des faits, pour contrer les fake news et autres rumeurs dont on sait les effets parfois absolument dévastateurs. Vous nous expliquez en quelques mots, parce que ça c'est intéressant.
Oui, alors c'est pas une cellule mise en place par les autorités, mais il y a au Ghana
Par
une
la société
institution
civile plutôt, ouais.
qui s'appelle la CODEO, qui est une coalition d'observateurs domestiques. C'est une organisation très intéressante. Ils sont hyper mobilisés tout au cours de la préparation du scrutin. C'est une émanation d'un think tank très connu qui œuvre à toujours améliorer la gouvernance démocratique au Ghana. Ils avaient 4 000 observateurs ghanéens indépendants déployés dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Ils avaient également donc une espèce de cellule centralisatrice à Accra, la capitale. Et dans cette cellule, il y avait une table d'observateurs consacrée donc à recenser les incidents rapportés sur le terrain par les observateurs, mais également à faire un travail de veille sur les réseaux sociaux pour essayer de faire des opérations de fact-checking, puisque le Ghana n'échappe pas à ce phénomène des fake news qui s'empare de toutes les démocraties. On l'a vu plusieurs fois au cours de la campagne et même le jour du scrutin, certaines fake news racontant par exemple que des observateurs appartenant au NDC, donc au parti d'opposition, avaient été renvoyés manu militari d'un bureau de vote. Voilà, donc ce type de nouvelles qui est propre à enflammer les militants ont été récupérées par cette cellule et éclaircies avec le maximum de faits pour essayer de désamorcer les tensions sur les réseaux sociaux.
Eh bien, il va falloir suivre les choses, Marie de Vergès, pour voir effectivement si la voie légale peut régler ce différend post-électoral. Si on sort un peu de ce scrutin, de cette élection, et qu'on se penche un peu sur l'économie du pays, vous racontez dans votre reportage que quand on se promène dans la capitale Accra, on est frappé par l'activité, par le dynamisme. On a de nouveaux immeubles qui se construisent un peu partout. On a des grands supermarchés qui font concurrence maintenant aux petites échoppes de rue. On a des belles berlines rutilantes ambulantes et pas seulement des vieilles voitures toutes cabossées qui viennent de Corée du Sud. Bref, on a l'impression d'être dans un pays qui est vraiment en plein boom économique. C'est une réalité ou c'est juste une impression de façade?
Alors bon, les capitales, comme on le sait, sont toujours un cas de figure un peu particulier. Et même Accra est composée de toute une diversité de quartiers qui ne sont pas tous les mêmes sociologiquement. Mais de fait, on est frappé quand même dans certains quartiers d'Accra par ce concept qui fait beaucoup rêver les Occidentaux depuis 10 ans, à savoir l'émergence de la classe moyenne, fantasme, réalité. En tout cas, ce qui est net, c'est qu'à Accra, on observe concrètement ce à quoi pourrait ressembler cette émergence, donc comme vous le dites, avec tout un tas d'infrastructures qui font penser. Alors, il y a du vrai et il y a du miroir aux alouettes dans tout ça. Effectivement, le Ghana a connu un développement très important depuis 20 ans, un développement malgré tout en dents de scie, donc avec des périodes de très forte croissance et des périodes de grande déprime économique. Par exemple, quand Nana Akufo-Addo est arrivée au pouvoir en 2016, l'économie était extrêmement mal en point. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'économie du Ghana, c'est une économie qui est essentiellement celle d'un pays riche en matières premières, donc à savoir le cacao, dont il est le deuxième producteur mondial, l'or, dont il est le premier producteur en Afrique, maintenant devant l'Afrique du Sud, et le pétrole. Il a découvert des gisements au large de ses côtes il y a un peu plus de 10 ans et commencé l'exploitation il y a une dizaine d'années. Et à ce titre-là, il est quand même très dépendant des cours des matières premières. Quand les cours sont élevés, le Ghana va très bien. Quand les cours s'effondrent, le Ghana va mal. Sa monnaie, qui ne dépend pas donc de la zone franc comme la Côte d'Ivoire voisine, est du coup sujette à une forte volatilité, ce qui a un effet sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat des gens. Donc voilà, c'est une économie volatile qui se développe malgré tout assez fortement. Et on peut dire à ce titre-là que la stabilité politique du pays est un véritable actif économique, parce que c'est un pays qui reçoit énormément d'investissements. C'est le pays qui reçoit le plus d'investissements directs étrangers en Afrique de l'Ouest, devant la Côte d'Ivoire, mais y compris devant le Nigeria, qui est 6 à 7 fois plus peuplé. Donc c'est quand même assez notable. Et les investisseurs disent fréquemment que pour eux, la stabilité politique et le fait effectivement qu'il n'y a pas de terrorisme, même au nord du pays, qui est pourtant frontalier du Burkina Faso, c'est un élément très important d'attraction des investissements. Voilà, mais certaines régions du pays échappent à ce développement, notamment le nord, qui reste extrêmement pauvre. Et même à Accra, on observe bien qu'il y a des quartiers qui sont très, très déshérités. C'est une croissance qui n'est pas riche en emplois. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même une nécessité de basculement, d'arriver à produire une croissance qui soit plus redistributive.
Ouais, vous dites d'ailleurs, à propos des régions du Nord, que le président sortant, Nana Akufo-Addo, avait fait des promesses pour porter ce développement, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'industrialisation, avec un certain nombre de grands projets, des barrages notamment, sauf que vous expliquez que le bilan en la matière est un peu mitigé. Mais vous disiez que lorsqu'il est arrivé en 2016 à la tête du pays, l'économie n'était pas bonne. Aujourd'hui, elle est relativement bonne. Alors, je mets évidemment le Covid de côté parce que, comme tous les pays du monde, ça a provoqué une crise économique. Mais on va y revenir. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut dire que la bonne situation économique d'aujourd'hui est le résultat de l'action politique du président? Ou est-ce que c'est simplement, au fond, la conjoncture économique régionale qui fait que, eh bien, les choses vont mieux?
Ah non, ça va au-delà de la conjoncture économique régionale. Ouais. Je pense qu'il y a eu une vraie, enfin, je pense, on voit qu'il y a eu une vraie attention de cette équipe portée à clarifier l'environnement des affaires, travailler sur ce qu'on appelle les agrégats macroéconomiques. Donc, il a travaillé quand même à réduire le déficit budgétaire. Alors, on pourra en reparler après, mais en revanche, au niveau de l'endettement, ça a été la tendance inverse et c'est quand même un gros problème pour ce pays. Il a travaillé à clarifier le cadre des affaires. Il a monté sur pied une agence de promotion des investissements qui est hyper efficace, qui est un vrai interlocuteur pour les investisseurs qui veulent venir dans le pays. D'ailleurs, il a des ministres dont une bonne partie viennent de la banque d'investissement aux États-Unis. Enfin voilà, c'est des gens qui connaissent bien les milieux d'affaires, les milieux financiers, et qui sont des interlocuteurs aussi fiables pour les investisseurs qui souhaitent s'implanter au Ghana. Mmh. Sur les projets de relance industrielle, effectivement, le bilan est décevant. On peut voir les choses aussi de deux côtés, c'est-à-dire il a présenté un projet qui était trop ambitieux et sans doute un peu théorique, c'est-à-dire ouvrir une usine dans chacun des 275 districts du pays, y compris dans le Nord. On sait bien qu'ouvrir une usine, ça peut pas être un projet qui se concrétise comme ça. Il faut des routes, il faut une chaîne de valeur. Enfin voilà, c'est un peu utopique d'imaginer ça. En même temps, en faisant ça, il a fixé un cap et il a poussé quand même des projets de relance industrielle qui sont concrets, qui sont bien en deçà de ce qui était présenté, mais c'est une façon d'impulser la dynamique. Donc pour tout ça, il a joué un rôle, et aussi son aura finalement sur la scène internationale contribue à le rendre attractif auprès des investisseurs internationaux. C'est quelqu'un qui a une parole forte et crédible. Donc ça contribue aussi à la santé économique du pays.
Peut-être un dernier mot, Marie de Vergès, sur la question du Covid. Jusqu'ici, le pays a compté assez peu de morts. J'ai regardé le bilan hier, c'était 326 morts du Covid pour un pays de 30 millions d'habitants. C'est donc assez peu. Jusqu'où est-ce que ce bon résultat est le fruit d'une action sanitaire volontariste du président? Et jusqu'où est-ce que cette crise a quand même fragilisé l'économie?
Alors, 323 morts, 326, ça, j'avais pas le dernier
326,
chiffre.
326, c'est ce que j'ai regardé hier. Ça
326,
peut être...
c'est pas énorme, c'est plus que la Côte d'Ivoire, par exemple. C'est pas non plus le chiffre le plus bas qu'on peut trouver sur le continent. Bon, ça ne nous a pas échappé, l'Afrique est quand même dans une situation particulière au niveau de l'épidémie. C'est un continent qui est peu touché en termes de morts. Ce qu'on a noté quand même, c'est que le président avait eu une action assez décisive. Enfin, il a été... très énergique et un des premiers pays à déclarer un lockdown, enfin un confinement dans sa population. Et puis quand on se promène à Accra, on est quand même très frappé. Finalement, le masque est vraiment beaucoup porté dans certains quartiers du centre. Toutes les administrations prennent la température des visiteurs, désinfectent les mains. Enfin, il y a quand même une politique assez volontariste. Certainement, ça a eu un effet, mais c'est très difficile de juger quel est l'effet des politiques, quel est l'effet tout simplement de la façon dont les Africains ont interagi avec ce virus. C'est un domaine sur lequel il reste encore beaucoup d'inconnus. Ce qui est intéressant sur le plan économique, effectivement, le Ghana paye un coût très, très dur à cette épidémie, comme l'ensemble des pays du continent, moins que d'autres. Mais néanmoins, sa croissance va tomber en dessous de 1%, ce qui est très important, ce qui sera la croissance la plus faible en fait que le pays enregistrera depuis quasiment 4 décennies. Mais là où l'action du président a été jugée efficace et intéressante, finalement, c'est en termes de plan de relance, parce qu'il a monté quand même un plan de relance assez, assez généreux dans des pays qui ne sont pas connus pour leurs amortisseurs sociaux. Il a offert l'électricité, l'eau à tous les foyers ghanéens. Il a monté un plan de subvention pour les PME de son pays. C'est quelque chose de notable qui a été vraiment apprécié par la population et qui même est jugé important et méritant d'être souligné par les observateurs extérieurs, car ce sont des pays qui ont peu de marge de manœuvre financière. Et c'était important pour éviter que l'économie sombre et que les ménages dégringolent à toutes les échelles du développement, de mettre en place aussi ce type de plan. Et je trouve que de ce point de vue-là, effectivement, ça a été porté à son crédit au niveau des élections, et c'est vrai que ça doit être remarqué.
Allez, tout dernier mot, Marie de Vergès, parce que je voudrais revenir quand même un instant sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le Ghana fait quand même un peu figure d'exception dans la région, avec ses élections libres, avec des alternances. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les voisins, on a à l'est un Togo ou une famille, en l'occurrence la famille Gnassingbé, est là depuis des décennies, un Mali au nord qui vient encore de vivre un énième coup d'État cet été, la Côte d'Ivoire, vous en parliez également, où on a là Alassane Ouattara qui a été reconduit pour un troisième mandat alors que la Constitution l'interdisait, avec toutes la crise post-électorale qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui fait que ce Ghana, lui, tire son épingle du jeu?
Ça,
c'est la grande
c'est
question
des pays. Ouais. On le doit beaucoup à Jerry Rawlings. Enfin, le pays le doit beaucoup à Jerry Rawlings, personnage quand même extrêmement original et étonnant, ancien putschiste qui a instauré la démocratie, qui a été un peu sous la pression internationale, a commencé à réformer son pays, avec des réformes libérales alors qu'il disait être l'ami de Kadhafi et de Fidel Castro, et puis qui a imposé une constitution démocratique en 92 à laquelle il s'est lui-même rangé, c'est-à-dire qu'il a été élu une première fois en 92, réélu en 96. Quand il a été battu en 2000, il a quitté le pouvoir au profit de l'autre grand parti du pays, le NPP.
Donc il y a cette figure tutélaire. Est-ce que par exemple le fait que c'est une ancienne colonie britannique, qui d'ailleurs appartient toujours au Commonwealth, est-ce que ça pu jouer ou pas du tout?
Bon, ça c'est toujours un peu le fantasme des Français, de se dire que les anciennes colonies britanniques sont mieux gérées. Alors là, je pourrais pas vous le dire. Eux-mêmes ne mettent pas ça
Ils le mettent pas en avant.
Pas ça en exergue. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont très souveraineté, premier pays à avoir acquis l'indépendance en Afrique subsaharienne. Ouais. C'est un pays qui a une grande estime de lui-même, et ça, je pense que ça compte aussi. Il a cette envie de continuer à être un exemple sur le continent pour diverses raisons.
Merci beaucoup, Marie Vergès, d'avoir été avec nous ce matin, nous parler un peu du Ghana. On le fait trop rarement. On est heureux de pouvoir le faire avec vous. Je rappelle que vous êtes chef adjointe du Monde Afrique et qu'on peut retrouver l'ensemble de vos reportages sur le site du Monde. Un grand merci à vous. c'est avec ce morceau ghanéen qu'on tourne notre page et qu'on va se diriger du côté de l'Égypte. D'ailleurs, j'indique, j'en profite, hein, parce que souvent, on a des mails d'auditeurs qui nous demandent les références des morceaux qu'on diffuse. Sachez que tous les morceaux sont évidemment indiqués en référence sur la page de Culture Monde. Donc, il vous suffit d'aller sur la page et vous découvrez toutes les pépites que vous sorte notre réalisateur Benjamin U. Paris, Le Caire, l'Alliance à tout prix, c'est la question qu'on va se poser maintenant.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque cette semaine, le président égyptien était à Paris pour une visite d'État, ce qui a suscité d'importantes critiques au regard des manquements aux principes de liberté et de démocratie dans le pays. Et pourtant, le président Al-Sisi a été reçu à l'Élysée par un Emmanuel Macron qui, malgré les critiques, a justifié sa venue.
Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord parce que je crois à la souveraineté des peuples et au respect de nos intérêts légitimes et réciproques. Ensuite, parce que je pense qu'il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale.
Voilà, donc malgré la répression sur l'opposition et l'état des droits de l'homme dans le pays, le président français a reçu son homologue égyptien pour une visite d'État. Mais d'ailleurs, quelle est la gravité de la situation en Égypte? Jusqu'où Al-Sisi a cadenassé le pays? Et pourquoi, malgré cela, le président français considère qu'il faut poursuivre la coopération avec le régime égyptien? Pour évoquer ces questions, on a invité ce matin Anne-Claire de Gueffier-Bonneville. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine du Moyen-Orient à l'INALCO. Avec nous également Jean-Marc Coux. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous, c'est merveilleux, tout le monde est là. Vous êtes professeur à Sciences Po Grenoble et vous aviez notamment écrit La Nouvelle Égypte, idée reçue sur un pays en mutation, c'était aux éditions du Cavalier Bleu en 2013. Avec nous également Marc Semo du Monde, bonjour Marc.
Bonjour.
Eh ben voilà, tout le monde est là, c'est la magie de la radio, on n'avait personne il y a 5 minutes et tout le monde est là maintenant. Merci infiniment. Marc, on commence avec vous comme on le fait à chaque fois. On peut considérer, Marc, que la France n'aurait pas dû accueillir le président égyptien au regard des atteintes aux droits de l'homme qui sont réelles, qui sont très inquiétantes évidemment. Mais d'abord, la diplomatie, ça consiste à parler à tout le monde et sur tous les sujets. Et en la matière, il n'y a pas eu d'évitement de la part d'Emmanuel Macron, on va y revenir. Et puis par ailleurs, au-delà de cette question, cette visite, elle révèle une alliance très forte entre Paris et Le Caire et la volonté partagée de part et d'autre de conserver ce partenariat, Marc.
On parle de partenariat stratégique et des deux côtés. Alors, le maréchal Al-Sisi se réfère toujours plus volontiers à la figure de Nasser et pour la place que le défunt Raïs occupe dans l'imaginaire égyptien, mais aussi dans toute la région, quand il se posait en leader d'un panarabisme qui jamais ne se concrétisa vraiment. Alors maintenant, Al-Sisi, depuis le référendum de 2019, il est doté de prérogatives quasi absolues, il pourra avoir un troisième mandat, il avait été réélu avec 97% des voix, et il règne sans partage. Donc rien ne le menace en interne, et pour lui, la grande question aujourd'hui, c'est aussi sa stature internationale, avec le soutien actif et surtout financier de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, qui sont les piliers d'un front conservateur des monarchies sunnites, face à l'Iran d'un côté, et face à la Turquie et aux frères musulmans de l'autre. Alors, la visite officielle de Sisi en très grande pompe en France concourt à cet objectif, que d'autant plus parce que les convergences avec la diplomatie d'Emmanuel Macron sont évidentes. Face aux coups de force turcs en Méditerranée orientale et en Libye, Paris et Le Caire sont au diapason. Le régime égyptien est aussi un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme ou sur les questions migratoires. Le régime de Sisi bénéficiait du soutien total de l'administration Trump. Celle de Joe Biden sera probablement moins accommodante, d'où la tentation de Paris de jouer la carte égyptienne en espérant avoir des retours.
Voilà, le cadre est posé. Anne-Claire de Gueffier-Bonneville, je vais commencer avec vous peut-être. J'évoquais dans mon introduction la question des droits de l'homme. C'est vrai qu'Al-Sisi a été reçu, et bien reçu, hein. Il est passé aux Invalides, il est passé à l'Arc de Triomphe, reçu à l'Élysée, il est également passé d'ailleurs à la Cité Universitaire pour poser la première pierre d'une future maison de l'Égypte. Bref, c'est une visite d'État au cours de laquelle, eh bien, c'est vrai qu'Al-Sisi a été très bien accueilli. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a eu raison de l'accueillir dans ces conditions, dans cette forme-là, ou vous pensez qu'on aurait pu, dû faire autrement, Anne-Claire de Gueffier-Bonneville?
Une question politique, mais je voudrais peut-être rappeler que une visite d'État, d'abord c'est une visite qui se prépare très à l'avance, et que les relations de la France avec l'Égypte se sont très très largement réchauffé depuis 2011 et à partir du moment où les relations avec de l'Égypte avec les États-Unis ont été moins spéciales et moins étroites, la France a pu nouer de ses relations étroites avec l'Égypte. On a quand même François Hollande qui assistait à l'inauguration des travaux d'élargissement du canal de Suez en 2015. Ouais. Il est allé lui aussi en visite officielle en Égypte en 2016. Le président Emmanuel Macron était en visite d'État en janvier 2019. Donc en fait, on a une situation de relations étroites entre l'Égypte et la France.
Et de continuité d'une certaine manière.
Et de continuité, ouais. Oui, tout à fait. Voilà, cette fois-ci, c'est le président Al-Sisi qui vient en France, mais on est, comme vous le disiez, on est dans une continuité avec ce qui s'est déjà passé auparavant. Hein. Ouais. Et c'est important quand même de le repérer. C'est pas une nouveauté sur la scène diplomatique française. Alors, est-ce qu'il a eu raison de le recevoir dans ces conditions? C'est important quand même d'avoir un partenariat avec un pays qui fait 100 millions d'habitants, qui est au sud de la Méditerranée, qui est une des premières économies du continent africain, un pays qui souhaite cette ouverture d'ailleurs sur le continent africain. L'Égypte a tenu la présidence de l'Union africaine en 2019. Pendant cette année-là, un accord a été signé pour une libre circulation, enfin un marché commun en Afrique. Donc il y a quand même une importance pour la France à avoir des relations avec ce pays.
Évidemment, et on va y revenir. Jean Marcoux, peut-être une première intervention, et autour aussi de cette question des droits de l'homme qui a été évoquée, qui n'a pas été évitée. J'ai eu l'occasion d'évoquer, a dit Emmanuel Macron, comme on le fait entre amis, en confiance et toute franchise, la question des droits de l'homme. Il vous semble que les choses ont été faites et bien faites, ou ça a été vraiment service minimum? Jean Marcoux.
Je pense que c'était quand même un petit peu service minimum par rapport à ce qu'Emmanuel Macron avait fait précédemment sur les droits de l'homme. Et que, effectivement, la France, là, était un petit peu surfée un petit peu sur des œufs avec cette affaire de droits de l'homme. Mais je crois aussi qu'il faut bien voir que la lutte contre le terrorisme et l'alliance, finalement, avec les pays sunnites conservateurs, pays du Golfe et Égypte, a été une ligne de conduite de la politique française depuis un certain temps déjà, et également avait été réaffirmée par Emmanuel Macron dès son premier discours aux ambassadeurs en août 2017, lorsqu'il avait expliqué que la priorité, petite quête étrangère de la France, était de lutter contre le terrorisme. Donc on était, bien évidemment, dans une contradiction. Je trouve que, paradoxalement, ce qu'on a beaucoup moins vu, c'est que l'Égypte aussi était dans une contradiction tout aussi forte.
C'est-à-dire?
Pourquoi? Eh bien, parce que il faut pas oublier justement ce qui s'est passé depuis l'assassinat de Samuel Paty, comment la France est perçue dans le monde arabo-musulman, et le fait que l'Égypte, en fait, dans le monde arabo-musulman, est un centre de gravité avec l'université, la mosquée d'Al-Azhar. Et qu'elle est une référence un petit peu dans le monde musulman. Et justement, le positionnement de la France, la loi sur le séparatisme et tout ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire ces protestations dans le monde arabe, ont mis en porte-à-faux, je dirais, l'université d'Al-Azhar. Et de ce point de vue-là, si Emmanuel Macron avait à tenir un peu la chaîne par les deux bouts entre la philosophie des Lumières et le réalisme politique de la lutte contre le terrorisme, eh bien, Abd al-Fattah al-Sisi à Paris avait un peu lui aussi à faire le même genre de compromis ou de grand écart entre finalement le positionnement vis-à-vis de la laïcité française réaffirmée par Emmanuel Macron et les critiques que cela a entraîné, voire les mouvements d'opposition que cela a entraîné dans le monde arabo-musulman, ouais. Et puis le réalisme de la politique qui était justement celui de maintenir son alliance avec la France. Et si on observe bien d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, c'est que dans la conférence de presse, Emmanuel Macron a rappelé l'attachement justement aux droits de l'homme, à la laïcité, etc. En même temps, Abdel Fattah al-Sissi a dit ce truc incroyable que finalement l'islam était au-dessus des lois des hommes. Peut-être une déclaration qu'on n'aurait même pas entendue dans la bouche d'un Recep Tayyip Erdogan, qu'un Recep Tayyip Erdogan n'aurait même pas osé prononcer.
Donc,
si on se place du côté de l'Égypte, il y a quelque chose qui est assez impressionnant aussi.
Ouais, je rappelle pour les auditeurs que, effectivement, à la suite d'une question d'un journaliste égyptien qui évoquait le fait qu'il n'y avait pas eu d'excuses de la France à propos des caricatures du prophète, il y a eu un échange entre les deux présidents. Al-Sissi expliquant que, je cite, les valeurs religieuses doivent avoir la suprématie sur les valeurs humaines, alors que le président français lui a répondu que la valeur de l'homme est supérieure à tout. C'est ça l'apport de la philosophie des Lumières, le formidable apport des droits de l'homme à la paix universelle, et c'est ce qui fait que je les défendrai toujours partout. Voilà ce qu'a répondu Emmanuel Macron. Marc Sémot, et puis ensuite Anne-Claire de Geffier-Bonneville.
Je voulais justement revenir là-dessus, sur ce dialogue, effectivement, entre les valeurs religieuses doivent avoir la suprématie, ou au contraire, les valeurs de l'homme. Mais sur ce point, est-ce qu'il n'y a pas, comme le disait Jean-Marc, vraiment un pas en arrière malgré tout de la France, c'est-à-dire il y a eu quelques références aux droits de l'homme, mais en même temps on a toujours parlé de la souveraineté et de la non-ingérence, et que finalement par rapport à d'autres fois, même si en 2017 il était encore en deçà, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas finalement laissé filer sur les questions de la répression massive, de la répression des LGBT, quelque chose qui va bien au-delà même de la stricte répression politique?
Anne-Claire de Geffier-Bonneville.
Moi, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que l'Égypte, depuis Nasser, hein, et Marc Sémot l'a bien signalé, il y a une continuité entre la présidence Sissi et Nasser. Il y a le souci de la souveraineté de l'Égypte, la souveraineté intérieure. Alors, c'est aussi un héritage colonial, etc., et historique, mais l'Égypte n'entend pas qu'on lui indique que quoi que ce soit concernant sa politique intérieure. Et donc, pour pouvoir maintenir ces bonnes relations entre l'Égypte et la France était peut-être obligée de mettre un bémol sur cette question des droits de l'homme et ne pas heurter la présidence égyptienne.
Mais si on poursuit un tout petit peu, il y a effectivement une situation qui est gravissime. Les ONG parlent de 60 000 prisonniers politiques. D'ailleurs, Al-Sissi a répondu en contestant ce chiffre, en expliquant qu'il y avait seulement 55 000 places de prison dans le pays, donc que ce chiffre n'était pas possible. Mais au-delà de cette question des chiffres, Anne-Claire de Geffier-Bonneville, l'état de la situation aujourd'hui, est-ce que vous diriez que finalement, elle est pire qu'à l'époque de Moubarak? Sur la question des droits de l'homme.
Oui, pas seulement d'ailleurs sur la question des droits de l'homme, mais effectivement la situation en Égypte est très difficile. Et puis vous n'aurez plus personne en Égypte qui viendra vous dire que il ne soutient pas le président actuel. C'est clair, vous n'avez plus de son de cloche d'opposition quand vous discutez avec les Égyptiens. C'est bien la marque que vous n'avez pas vraiment de liberté d'expression et d'opposition politique à la présidence actuelle.
Jean-Marc Roux.
Elle est indiscutablement extrêmement différente et on peut la qualifier de pire quand on regarde un certain nombre de choses. La plupart des révolutionnaires égyptiens qui avaient continué à exprimer leurs critiques se sont retrouvés en prison. Ils sont parfois même encore. À l'époque de Moubarak, il y avait également un jeu subtil, il y avait une sorte de tolérance vis-à-vis de l'opposition islamiste, des frères musulmans qui n'avaient pas officiellement droit de statut, mais lors de chaque élection, vous savez, il y avait les candidats du président, il y avait les candidats indépendants qui permettaient à la population d'exprimer leurs différences, et en même temps ces candidats indépendants après l'élection direction se rattachaient au parti du président. Et puis, il y avait les indépendants islamistes qui étaient en fait les frères. Et ils avaient un certain statut. Il y a même eu des élections où, je me souviens, en 2005, où le président a dû annuler les élections parce qu'il y avait eu réellement un vote de l'opposition islamiste qui est pour l'opposition islamiste qui était importante. Donc il y avait, si vous voulez, il y avait une diversité qui était quand même beaucoup plus forte.
Qu'il y a plus aujourd'hui.
Alors qu'aujourd'hui, il y a un unanimisme. Hein. Vous avez pratiquement la plupart des membres du Parlement qui sont des espèces d'indépendants qui en réalité suivent le mouvement. Et il est très difficile aujourd'hui, ne serait-ce que pour des journalistes, d'exprimer on parle même pas de critique, si vous voulez, mais la moindre petite divergence. Et plus généralement, pour des chercheurs, il est quand même assez difficile aujourd'hui de travailler en Égypte, parce que même sur des questions purement sociales, il y a un contrôle social qui est extrêmement fort. Donc,
alors justement,
Jean-Marcoux,
Jean-Marcoux, alors même que la situation est particulièrement préoccupante et qu'elle s'est dégradée, on a effectivement une France, comme vous le disiez tout à l'heure, une diplomatie française qui finalement fait le service minimum. Essayons de comprendre pourquoi et regardons du côté maintenant de la question de la coopération militaire et sécuritaire. On sait que l'Égypte achète beaucoup de matériel français, notamment les Rafales. Hein. L'Égypte a été la première à acheter, à commander des Rafales. Mais elle achète aussi à d'autres pays, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis et visiblement de plus en plus. Je pense en particulier à un fait particulièrement marquant ces derniers mois, le fait que l'Italie s'apprête à vendre deux frégates à l'Égypte. Alors, jusqu'où, au fond, ce partenariat franco-égyptien sur les ventes d'armes est aujourd'hui fragilisé? Et est-ce que, finalement, ce n'est pas ce qui peut expliquer, sinon le silence, au moins le peu d'enclin à mettre le doigt sur la question des droits de l'homme? Jean-Marcoux, et puis ensuite, je vous redonne la parole à Claire de Gueffier-Bonneville. Jean-Marcoux.
Oui, parce que il y a un enjeu de ce point de vue-là pour la France et le fait est que l'Égypte au cours des dernières années a beaucoup diversifié ses approvisionnements, ce qui fait que il y a une sorte de concurrence qui est importante et la France, comme vous le rappeliez, avait remporté un certain succès après l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sissi en vendant pour la première fois des Rafales à un pays étranger, en vendant également ses porte-hélicoptères Mistral. Mais c'était assez amusant d'ailleurs sur les Mistral parce qu'ils ont c'était des bateaux qui étaient destinés à la Russie qui ont été frappés par l'embargo après la crise ukrainienne et qui ont été vendus finalement à l'Égypte avec
après l'annexion de la Crimée. Ouais.
Voilà, et avec le consentement de la Russie, parce que la Russie a équipé les Mistral sur le pont avec tout ce qui est radar, etc. Et que c'était vendre aussi des bateaux destinés à la Russie à finalement un pays qui n'était pas véritablement hostile à la Russie, qui était même plutôt en train de se rapprocher. Mais je crois quand même sur le problème, sur la question militaire, le gros problème est celui du financement. Et si l'Égypte a ralenti justement ses approvisionnements français, c'est pas simplement parce qu'elle achète ailleurs, mais aussi parce qu'il y a un problème de financement en particulier saoudien et surtout des Émirats arabes unis qui ne souhaitent plus financer, je dirais, à bourse ouverte les investissements militaires égyptiens et qui soumettent l'Égypte à une certaine rigueur, y compris en avançant des arguments économiques, hein, parce que l'Égypte est un des seuls pays de la région MENA dans le Covid qui a une croissance positive, donc qui a pratiqué une certaine rigueur économique. Et je dirais que les pays du Golfe, qui sont les financeurs, il faut bien voir qui avaient été les financeurs de ce matériel acheté, eh bien, souhaitent que l'Égypte continue et justement mette le holà sur les approvisionnements militaires de l'Égypte. Ceci dit, il y a des coopérations militaires importantes. Je pense aux manœuvres qui se sont déroulées ces derniers jours.
On va y revenir évidemment. Anne-Claire de Gueffier-Bonneville et puis ensuite Marc Sémot. Tout le monde va intervenir. Anne-Claire de Gueffier-Bonneville.
Oui, je voudrais insister sur la volonté de l'Égypte de multiplier ses partenaires sur la scène internationale. Elle veut sortir du tête-à-tête qu'elle a eu un peu trop exclusif avec les États-Unis. Et la France est un des partenaires, mais pas uniquement. Il y a la Russie, avec notamment l'achat de centrales nucléaires, par exemple, et le développement d'une centrale nucléaire russe, enfin de technologie russe dans le désert occidental. Il y a un partenariat avec l'Italie, avec l'Allemagne aussi pour les sous-marins, et énormément aussi avec la Chine. Le président Al-Sisi a quand même fait déjà 4 voyages en Chine, hein, c'est pour vous montrer l'importance de la multiplication de ces partenariats. Concernant l'armée, effectivement, l'Égypte a eu le souci de développer son armée. Elle est très fière de pouvoir dire qu'elle représente la plus grande puissance militaire d'Afrique et du monde arabe. Et l'Égypte a développé des bases militaires tout à fait importante. La dernière en date, elle est sur la mer Rouge, c'est la base militaire Bérénice, mais on a eu aussi une nouvelle base militaire qui a été créée ces dernières années à l'ouest d'Alexandrie, qui est la base Mohamed Neguib, une énorme base militaire qui peut accueillir jusqu'à 20 000 soldats. Donc il y a vraiment le souci effectivement de développer cette armée, de représenter une véritable puissance, et sans doute cette volonté de puissance, elle s'explique dans une espèce de compétition pour le leadership régional sunnite face à l'Arabie Saoudite, face à la Turquie, ouais. qui elles aussi sont en train d'avancer sur cette scène régionale.
Et d'ailleurs, je voudrais vous entendre l'un et l'autre sur la question de savoir si au fond ce partenariat stratégique entre Paris et le Caire ne doit pas aussi se lire à l'aune de cette montée en puissance d'une Turquie particulièrement turbulente et d'un Macron qui ambitionne de plus en plus justement de contenir Ankara. Mais Marc Semo d'abord, vous vouliez réagir.
Oui, justement, sur ce point, parce que l'un et l'autre de nos interlocuteurs le rappelait, c'est l'argent des Saoudiens et des Émirats Arabes Unis qui permet à l'Égypte de se doter de l'armement donc des 24 Rafales, de devenir une réelle puissance militaire. Mais quelle est justement la réelle marge de manœuvre qu'a Al-Sisi par rapport à ces deux parrains et bailleurs de fonds que sont MBS, le Saoudien, et MBZ, l'Émirati?
Anne-Claire de Gayfield-Bonneville et ensuite Jean-Marcou. Anne-Claire de Gayfield-Bonneville.
Et justement, la visite en France est intéressante de ce point de vue. C'est parce qu'il s'agit aussi d'essayer peut-être de se démarquer, de montrer la spécificité de l'Égypte, de pouvoir montrer que l'Égypte est capable d'avoir un dialogue constructif avec des puissances occidentales, et notamment la France. Je voudrais aussi peut-être souligner sur cette question justement de la relation régionale, je voudrais évoquer la réunion du 24 septembre 2020 entre la France, l'Allemagne, la Jordanie et l'Égypte, qui ont reposé sur la table la question du processus de paix israélo-palestinien. Et on voit bien que par rapport à un axe peut-être États-Unis, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, eh bien l'Égypte, la France et donc aussi l'Allemagne, la Jordanie et l'Union européenne, puisqu'il y avait un représentant de l'Union européenne, veulent faire entendre une voix un peu différente et veulent indiquer que la solution à deux États avec vraiment une place pour les Palestiniens est absolument indispensable pour résoudre cette question. Et en ce sens-là, on voit bien que l'Égypte, elle essaye d'émerger comme étant elle aussi une véritable puissance dans la région.
Jean-Marcou, sur cette marge de manœuvre vis-à-vis des pays du Golfe, et puis ensuite j'aimerais bien vous entendre sur la question de la Turquie. Jean-Marcou.
La marge de manœuvre, on peut estimer qu'elle est assez faible, justement à bien des égards, quand on regarde financièrement le fait que finalement depuis encore plus depuis les printemps arabes, depuis la prise de pouvoir d'Al-Sissi en 2013, le financement hein, justement des pays du Golfe, il est extrêmement important, notamment parce que l'Égypte a perdu à la suite des printemps arabes des ressources, en particulier un certain nombre, c'est une économie de rente, et elle a perdu un certain nombre de ressources. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que cette marge de manœuvre qui est forte, il y a une double dépendance, parce que pour les pays du Golfe, il y a un soutien. L'Égypte dépend beaucoup des pays du Golfe, mais en même temps, pour les pays du Golfe, maintenir l'Égypte à flot, c'est effectivement quelque chose d'essentiel, parce que c'est un peu le centre de gravité de l'Égypte. Et plusieurs fois, on a vu que quand il y avait des désaccords entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, les Émirats, d'une certaine manière, il y avait aussi une sorte de chantage, de mise à l'épreuve de l'Égypte à revers, disant ben, si vous voulez nous lâcher, lâchez-nous, et c'est le désordre total dans la région. Donc il y a une dépendance, bien sûr, mais il y a une dépendance qui fait en quelque sorte, je dirais, système, qui fait qu'on est et je dirais que ça, c'est une caractéristique aussi de l'Égypte, c'est que c'est un pays qui dépend à bien des égards de l'extérieur et qui finalement est un centre de gravité dans la région, qui fait que beaucoup de gens sont prêts à la soutenir parce que tout le monde a peur de ce qui se passerait si jamais l'Égypte s'effondrait.
Jean Marcoux, sur la question de la Turquie, il y a évidemment, on est dans un moment particulier de grande tension entre l'Europe et la Turquie, mais peut-être en particulier entre la France et la Turquie. On voit bien que ces derniers mois, qu'il y a eu des positionnements très clairs à l'encontre de la Turquie sur, par exemple, en mer Méditerranée, sur la question du gaz. On voit bien que aussi, par exemple, sur les terrains libyens, l'Égypte et la France se sont positionnés du même côté, à savoir en soutien au maréchal Haftar, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, politiquement, il est un peu marginalisé. Mais enfin, c'est un autre problème. Il se trouve qu'ils sont du même côté contre une Turquie qui, elle, soutient le camp d'en face. Jusqu'où, Jean-Marcoux, il faut lire ce renforcement de cette alliance Paris-Le Caire à l'aune, justement, de ce désir du côté de Paris, mais aussi peut-être du côté du Caire, de répondre à cette montée en puissance de la Turquie et de placer précisément l'Égypte en grande rivale, grande concurrente de la puissance turque, Jean-Marcoux.
Oui, ça me paraît, je crois que la rivalité turco-égyptienne a renforcé, justement, tend à renforcer la convergence entre Paris et le Caire. Bon, cette rivalité, d'ailleurs, entre la Turquie et l'Égypte n'est pas nouvelle. Hein. C'est finalement les deux portes du Moyen-Orient, mais deux portes rivales, qui ont été rivales historiquement, hein, depuis l'apparition de l'État moderne égyptien au XIXe. Il y a eu au XIXe déjà une rivalité très forte entre l'Égypte et, à l'époque, l'Empire ottoman qui essayait dans la modernisation. Hein. Et puis à l'époque, au XXe siècle, hein, l'Égypte et la Turquie n'ont pas été sur les mêmes positions, que ce soit sur le plan sociétal, à l'époque d'Atatürk, et puis à l'époque du Royaume d'Égypte, où le Royaume d'Égypte, lui, était soumis à la Grande-Bretagne, que ce soit à l'époque nassérienne, hein, également, où l'Égypte était finalement dans le camp des non-alignés, et puis dans le proche de l'Union soviétique, alors même que la Turquie s'était ralliée aux Occidentaux. Et il y a eu effectivement, notamment après la fin du monde bipolaire et à la fin de l'époque Moubarak, et puis surtout pendant les printemps arabes à l'époque de Morsi, une convergence turco-égyptienne, mais désormais à nouveau, hein, notamment depuis 2013, on est dans une rivalité extrêmement forte. Recep Tayyip Erdogan ne manque pas une occasion justement de qualifier Abdel Fattah al-Sissi de putschiste, et sur les terrains que vous signaliez, et en particulier sur la Méditerranée orientale et sur la Libye, on a une convergence des intérêts franco-égyptiens qui est extrêmement forte, hein, notamment sur la Méditerranée orientale. On voit que l'Égypte s'est placée au cœur finalement de ce grand jeu gazier, et elle est une rivale directe en se positionnant d'ailleurs elle-même comme un pays exportateur de gaz, non seulement de son propre gaz et notamment du gisement Zohr qui a été découvert en 2013. Faut pas oublier que l'Égypte importe du gaz israélien qu'elle liquéfie, elle se positionne comme hub de gaz liquéfié dans le sud de la Méditerranée vers les marchés extérieurs, au moment où la Turquie elle-même s'est positionnée ces dernières années comme hub au carrefour des gazoducs, en particulier le TANAP qu'elle développe avec l'Azerbaïdjan et le Turkish Stream qu'elle développe avec la Russie. Donc il y a une concurrence absolument directe, non seulement militaire, mais sur le plan des intérêts énergétiques entre la Turquie, effectivement, et l'Égypte. Et on a vu même la France vouloir adhérer au forum gazier qu'a monté l'Égypte, dont l'Égypte est le centre de gravité.
Auquel participent Israël, Chypre, la Grèce, la Jordanie, l'autorité palestinienne et l'Italie. Pour vous donner la parole, Anne-Claire de Gueffier-Bonneville, sur ce sujet, c'est-à-dire celui de la rivalité entre la Turquie et l'Égypte, qui, on le voit, produit en retour un renforcement des liens entre le Caire et Paris. Et puis ensuite, j'aimerais vous entendre, il nous reste encore quelques minutes, sur la question de la lutte contre le terrorisme, parce que quand on entend... la diplomatie française, c'est immanquablement le premier argument qui revient pour expliquer précisément cette alliance stratégique entre les deux pays. Or, en la matière, il serait intéressant de regarder l'action et le bilan d'Al-Sisi. Anne-Claire de Gueffier-Bonneville, si vous voulez réagir sur la rivalité, ou alors on va tout de suite sur la question du terrorisme. Anne-Claire de Gueffier-Bonneville.
En fait, elles sont assez liées. Ouais. Enfin, la rivalité, derrière, on peut lire les frères musulmans. La Turquie a soutenu clairement les frères musulmans et Al-Sisi est arrivé au pouvoir en s'opposant manu militari aux frères musulmans. Donc, cette rivalité, on peut la voir aussi à travers ce point-là. Et donc, Al-Sisi est dans une logique de lutte contre le terrorisme et contre notamment dans la région du Sinaï, contre une rébellion violente qui est à la fois islamiste et tribale bédouine. Et cette rébellion s'est développée, s'est renforcée depuis 2015 dans le Sinaï, et visiblement le pouvoir égyptien a du mal à lutter contre cette forme de rébellion. D'abord parce que l'espace du Sinaï est relativement vaste et montagneux et donc pas toujours très facile d'accès. Et puis peut-être aussi que les moyens qu'il emploie pour lutter contre cette rébellion ne sont peut-être pas les meilleurs moyens. C'est-à-dire... Le système des punitions collectives, par exemple, qui est employé, ces punitions collectives, elles ont un peu tendance à aliéner la population qui du coup se met du côté de ceux qui sont contre le pouvoir. Cette rébellion, elle se nourrit...
Qu'est-ce que vous appelez le système des punitions collectives ? Que les choses soient claires.
Tout simplement, on va détruire la maison de ceux dont on sait qu'ils sont en contact avec la rébellion.
D'accord, c'est parfaitement clair.
Et donc, donc du coup, l'ensemble de la famille va se rapprocher de ce mouvement de rébellion, même si à l'origine ils n'étaient pas particulièrement liés à ce mouvement.
Mais justement, pardon, Anne-Claire de Gueffier-Bonneville, précisément au départ, en tout cas lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Al-Sisi, son ambition c'était précisément d'engager des investissements dans cette région, en espérant que le développement du territoire aurait raison de ce soutien populaire dont jouissent ces groupes armés. Qu'est-ce qui a été fait et avec quel résultat?
Tout à fait, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut lire toute la politique de travaux d'élargissement du canal de Suez. Hein. Il s'agissait d'essayer de moderniser, de dynamiser la région. Et en fait, on s'aperçoit que cette dynamique, elle ne porte pas les fruits espérés. Que ceux qui éventuellement en bénéficient, ce sont des Égyptiens qui viennent s'installer dans la région, mais ce sont pas les populations tribales bédouines qui sont dans le Sinaï. Donc c'est une situation qui est assez compliquée. Ceci dit, la La rébellion islamiste, cette fois-ci, se met aussi à dos la population tribale par certaines de ses positions. Lorsqu'on a eu en 2017 l'attaque contre la mosquée soufie de Bir al-Abd dans le nord du Sinaï, vous avez un certain nombre de populations tribales qui ont estimé que ce mouvement, les mouvements islamistes allaient trop loin et que du coup la relation ne pouvait pas continuer à se développer et ont eu tendance à se rapprocher du pouvoir égyptien. Mais donc on a en fait une situation qui n'arrive pas à être éclaircie, qui n'arrive pas à être apaisée, et les Égyptiens sont assez embourbés en fait dans cette question du Sinaï, en n'arrivant pas à forger des partenariats solides avec les populations tribales bédouines contre les mouvements de rébellion islamiste. Parce qu'il faut bien voir qu'on a cette double dynamique dans le Sinaï.
Compte tenu justement de ce bilan que vous nous dressez, qui est assez mitigé pour le moins, Jean-Marc Roux, c'est vrai qu'on a du mal du coup à comprendre cet argument de la France qui consiste à dire que l'Égypte est le bon allié pour lutter contre le terrorisme. Évidemment qu'elle a raison de se positionner ainsi, mais on voit que l'Égypte n'est pas forcément le bon protagoniste pour ce faire. Jean-Marc Roux, on a presque une minute encore. Jean-Marc Roux.
Oui, je pense que c'est... c'est ce que vous dites est effectif, mais je crois aussi qu'il y a cette volonté de la France de se positionner dans une structuration du Moyen-Orient où on a cette espèce d'alliance. Hein. Je crois que la lutte contre le terrorisme dépend pas simplement de la lutte intérieure que mène l'Égypte elle-même contre le terrorisme, mais de cette espèce d'alliance à l'heure actuelle qui est en train de se créer, enfin qui s'est créée déjà entre l'Égypte, les pays du Golfe, pour lutter effectivement contre justement les frères musulmans, l'islam politique, alors même que cet islam politique, il est soutenu en réalité par la Turquie, l'Iran, le Qatar, et notamment il y a toujours ce conflit dans le Golfe. Hein,
ouais, c'est une alliance politique idéologique quasiment, plus qu'une alliance militaire, c'est ça que vous voulez dire.
C'est une alliance politique et idéologique. Ouais. Et ce que je voulais dire quand même, vis-à-vis de la relation avec l'Égypte, c'est que la France est un peu en déséquilibre par rapport à ses ambitions politiques et ce qu'elle pèse économiquement, parce qu'elle est malgré tout le 11e partenaire commercial de l'Égypte et le 9e investisseur. Et donc il y a un décalage entre la volonté politique et ce que nous pèsons réellement dans la région.
سيبك حظك من الدعاء وتلم في ايدك شلتك وتنور سجن المزرعة ايه يا بلحة ايه يا بلحة يا بلحة يا حلوة يا بلحة يا مأمع خلصت سنينك الاربعة يا حلوة يا بلحة يا مأمع خلصت سنينك الاربعة طولت علينا بطلتك زهقنا خلاص.
Merci à tous nos invités, Anne-Claire de Gueffier-Bonneville, et je n'avais pas indiqué tout à l'heure, je vais le faire tout de suite, que vous êtes notamment l'autrice de cet ouvrage « Histoire de l'Égypte moderne, l'éveil d'une nation », entre autres, qui était paru chez Flammarion. Il y en a évidemment d'autres, on peut le retrouver sur le site de Culture Monde. Un grand merci également à Jean-Marc Roux d'avoir été avec nous. La Nouvelle Égypte, idée reçue sur un pays en mutation, pareil, en fait référence sur la page de Culture Monde. Grand merci à vous, Marc Semo, notre partenaire du Monde. On se retrouve vendredi prochain, dans un court instant, c'est Lucille Como et La Critique.
France Culture. L'esprit d'ouverture.